Cette conférence va maintenant être enregistrée.
J'attendais l'intervention de l'hôtesse avant de commencer. Alors, voilà, ça c'est la ligne que je cherche. Donc, on va commencer à explorer un petit peu les trois natures ou les trois caractéristiques. Jusqu'à présent, on a fait un peu l'introduction, la mise en état des lieux, la motivation, etc., les conditions optimum pour commencer vraiment un chemin fructueux qui sera, on peut l'espérer, fructueux sur le chemin d'éveil. Et maintenant, on va parler de ces trois natures. Alors, ces trois natures appartiennent. 2 secondes de philo et d'histoire appartiennent à un des 4 grands courants de la philosophie bouddhiste. Au cours des enseignements du temps, les enseignements se sont regroupés dans des lieux, autour de maîtres particuliers et ont mis en avant ou ont mis l'accent sur un certain aspect de l'enseignement du Bouddha ou une certaine interprétation de l'enseignement du Bouddha. D'accord? Je crois qu'on a déjà entrevu le fait qu'il y avait deux grands courants, un courant qui était celui, on va dire, de la libération individuelle, cette aspiration à se libérer individuellement, qu'on appelle le véhicule, le courant des auditeurs, avec deux grandes familles, d'une part ceux qui s'appuient sur les textes originaux, ce qu'on appelle donc les sutras, et donc par extension, ce groupe s'appelle les sotantrikas. Et puis il y a ceux qui s'appuient sur les encyclopédies, c'est-à-dire l'organisation des enseignements du Bouddha qui ont été faits au travers des temps et qui deviennent finalement presque plus importants que les sutras eux-mêmes, puisqu'ils mettent en forme et donnent une certaine structure, organisent l'enseignement organique du Bouddha. C'est-à-dire organique dans le sens qu'il s'est développé au fur et à mesure des rencontres, des auditoires, etc., etc. Et donc, cette deuxième partie donc s'appuie sur ces encyclopédies, Vaibhāsa, et en sanskrit, et donc ce groupe s'appelle Vaibhāsika. À l'intérieur de chacun de ces groupes, il y a encore des sous-groupes, etc., avec des petites différences dans la vue et donc aussi dans l'application méditative. Il y a aussi des différences dans les cérémonies d'ordination. Voilà. Donc tout ça constitue cette première partie que l'on peut appeler le véhicule des auditeurs, ce qui est le plus correct de nos jours. Avant, on parlait de Hinayana, qui est très péjoratif, parce que Hina veut dire pratiquement, comment dire, inférieur, médiocre, comment on dit en français, despicable, comment dire, inintéressant. Enfin, ce mot est vraiment péjoratif et il était plutôt employé par les tenants du Mahayana qui disaient nous sommes les grands, le Maha, le grand véhicule, et les autres, c'est le petit, le moindre, le rabougri, etc. Donc tout ça a été évacué complètement du vocabulaire bouddhiste. On ne le retrouve plus, sauf chez les gens qui ne sont pas très informés que les temps ont changé. Donc on utilise maintenant la définition Shravakayana, le véhicule des auditeurs, et Mahayana ou Bodhisattvayana, le véhicule des Bodhisattvas, le grand véhicule dans le sens qu'il englobe l'ensemble des êtres dans la démarche d'éveil. Voilà. La deuxième partie, donc, c'est ce Mahayana ou le Bodhisattvayana, qui lui a 2 grands courants. Un courant que l'on appelle Yogacara, qui parfois de façon péjorative est appelé esprit simple, esprit seul, conscience simple ou simple représentation. Tout ça, c'est un peu des termes péjoratifs. Le terme yogacara veut dire ceux qui détiennent, c'est-à-dire qui pratiquent le yoga. Le yoga étant l'union permanente à l'état naturel. C'est ce que une traduction relativement littéral du mot yoga pourrait signifier. Dans le mot yoga, on retrouve d'ailleurs la racine du mot français joug. En anglais, yoke. Hein, c'est-à-dire la pièce de bois qui attelle les deux bœufs qui vont tirer. Donc il y a l'idée de jonction dans le mot yog. Yoke en anglais, joug en français. Donc c'est Shama Rinpoche traduit yoga par l'union permanente à l'état naturel, c'est-à-dire que notre esprit s'installe de façon permanente dans sa nature profonde, en lui-même en quelque sorte, dans la reconnaissance de sa nature profonde. Et donc, ces yogacaras ont développé un certain nombre de vues et de pratiques qui sont en relation avec les vues, vues philosophiques, point de vue. Et puis l'autre partie, c'est ce qu'on appelle la grande voie médiane, le Madhyamaka, c'est-à-dire qui est principalement, on va dire, qui a été inspiré par le maître indien Nagarjuna, et qui est finalement un moyen de transcender toutes les positions extrêmes. L'affirmation que les choses existent ou n'existent pas, qu'elles sont à la fois inexistantes et existantes, ou qu'elles ne sont pas cette combinaison-là de possibilités. Donc, ces trois natures appartiennent à la vue du Yogacara. Hein? Voilà. Fin de l'épisode historique. C'est pour vous cadrer un petit peu l'explication du texte pour voir où on se trouve. Alors, dans l'observation de l'esprit au travers de la méditation, les tenants de cette tradition ont commencé à voir effectivement qu'il y avait un certain nombre de facettes. Ils ont rencontré un certain nombre de facettes dans l'esprit aux différents moments de la reconnaissance de l'esprit. On va voir qu'il y a une phase où l'esprit est complètement sous l'emprise de l'ignorance, et donc que toutes les perceptions sont teintées de cette ignorance et qu'elles sont en fait inexactes, elles sont confuses. Et puis un peu plus loin, on va commencer à voir qu'effectivement, tous les phénomènes qui s'élèvent, toutes les expériences que l'on fait, apparaissent dans un cadre dualiste, mais sont en fait avant tout une production interdépendante. À nouveau, le mantra, cela dépend. Tout phénomène ne s'élève pas de lui-même en lui-même, n'existe pas de lui-même en lui-même, mais il existe au travers d'une. Oui, sa manifestation est perceptible au travers d'un ensemble de causes et de conditions qui s'alignent, qui viennent ensemble pour former cette expérience. Et puis finalement, troisièmement, il y a la phase dite d'actualisation, de parachèvement, qui est l'éveil, c'est-à-dire l'expérience et l'établissement dans la réalisation de l'état naturel de l'esprit. Donc, on va passer au travers de ces trois phases, on va discuter un peu de ça. Alors, la première, on va la traduire en français comme la nature imaginaire, où on peut utiliser le mot d'imputation. C'est-à-dire que l'on suppose, on attribue une représentation à quelque chose, et en quelque sorte, l'étiquette pour nous devient la réalité. Et c'est là où il y a une possibilité de confusion. Le deuxième, en tibétain, kunta, complètement fabriqué, complètement imaginé, complètement imaginaire. Ou pure imputation. Le second, c'est Shen Wang. Shen, c'est l'autre. Wang, c'est dépendant, le pouvoir. Donc, en fait, donc, cette deuxième phase, c'est dépendant de l'autre. Et principalement, c'est une contemplation, réflexion, analyse, méditation, réflexion sur la production interdépendante. Le fait que les phénomènes n'ont d'apparence, non d'existence qu'au travers de la production interdépendante. Et ces deux premières phases sont encore quelque part dans le mode conditionné, sont encore sous l'influence de l'ignorance, mais par un travail de reconnaissance et de transformation, eh bien, on peut dissiper ces voiles de confusion. Ce que l'on a vu ce matin, le voile de l'ignorance et le voile des afflictions mentales. Et enfin, voir, rencontrer, actualiser l'état naturel, le terrain fondamental, Alaya, la nature de Bouddha, le Mahamudra, tous ces termes s'applique à cette réalité profonde de l'esprit. Alors, on va commencer déjà par la première phase, donc le monde imaginaire. Peut-être ça sera plus simple, hein, c'est pas une traduction qui est un petit peu, qui n'est pas littérale, pardon, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et pour l'illustrer, je vais prendre le texte de la prière du Mahamudra, qui se trouve donc à la page 6, tout en bas, la page 6 de ce texte. Nos propres manifestations qui n'ont jamais existé donnent l'illusion d'objet. Sous l'emprise de la non-connaissance, notre conscience donne l'illusion d'un moi. Sous le pouvoir de la saisie duelle, dans l'immensité des possibles, nous errons. L'illusion de la non-connaissance à la racine, puissions-nous trancher. Shama Rinpoche définit l'ensemble des phénomènes comme des perceptions illusoires qui sont le fruit d'une conscience confuse. Perceptions illusoires qui sont le résultat d'une conscience confuse. Nos propres manifestations, c'est-à-dire ici, l'ensemble des phénomènes, ce que l'on range dans le dossier objet. D'accord? L'ensemble des phénomènes, qu'ils soient animés comme inanimés, les êtres, le monde, l'environnement, etc., etc., sont pure imagination. Dans le Yogacara, on dit le monde imaginaire n'existe pas. Il n'a pas de base, il n'a pas de fondement et de réalité. Il est pure spéculation, imputation. C'est une fantasmagorie, une imagination. Donc, la vue du Yogacara va très loin, c'est-à-dire que tout ce que l'on perçoit n'est que perceptions illusoires qui sont le fruit d'un esprit qui ne se connaît pas. Et donc qui est sous la coupe de l'ignorance, qui favorise l'émergence du système dualiste, où la conscience de l'esprit n'est pas reconnue comme étant la qualité propre de l'esprit vide, mais la conscience de l'esprit est affublée d'un qualificatif, le sujet, moi, l'esprit percevant. Et à partir de ce moment-là, le moi étant dissocié ou en quelque sorte coupé du terrain fondamental, eh bien cela crée l'autre. Ce qui n'est pas moi, l'objet, animé ou inanimé. Donc, le système dualiste naît de l'ignorance. L'objet est la manifestation de l'esprit, il est le rayonnement de l'esprit vide, le sujet est la conscience de l'esprit vide, et donc, en essence, le sujet comme l'objet ne sont pas dissociables. Dans la manifestation, ils apparaissent aux yeux de l'esprit confus comme étant deux polarités distinctes, permanentes, autonomes et opposées. Et donc, cette structure dualiste va est la porte ouverte à n'importe quoi, puisque entre moi et l'autre, entre le sujet et l'objet, il y a un fossé où les afflictions mentales vont pouvoir s'élever. C'est-à-dire que du point de vue du sujet, l'objet qui est imaginé comme plaisant devient source d'attachement. L'objet qui est imaginé comme étant déplaisant devient source de rejet. Et tout cela se passe de toute façon dans une forme de confusion mentale, puisque on ne sait pas, on ne connaît pas le fond de la réalité. Et donc, que ça soit saisi ou rejet, il y a une forme d'opacité, une forme de confusion mentale. C'est la troisième affliction mentale qui est la confusion mentale. Nos propres manifestations, c'est-à-dire le jeu spontané de l'esprit, le jeu de l'esprit qui s'élève au gré des causes et des conditions, par l'effet de la production interdépendante, ça se traduit simplement par ceci conduit à cela. Cela devient ceci qui conduit à cela. Tout dépend. Tout dépend d'autre chose. Et la manifestation s'élève. Donc ces propres manifestations qui n'ont jamais existé donnent l'illusion d'objet. Donc là, il y a deux choses qui sont mises en avant. Tous les phénomènes sont un jeu de l'esprit. Donc ils participent de l'essence profonde de l'esprit, qui est vacuité. Donc si ces phénomènes sont vacuités, ils n'ont pas d'existence substantielle. Ils sont comme un écho, une illusion d'optique, le reflet de la lune sur l'eau, un mirage, etc., etc. On a ce qu'on appelle les douze représentations symboliques de l'illusion. Donc, ils apparaissent, mais n'ont pas d'existence substantielle, donc ils n'existent pas. Le terme existait dans le bouddhisme, et en particulier dans les écoles du Yogacara et du Madhyamaka, il a une acception particulière. Exister veut dire avoir une existence qui serait autonome, distincte, pérenne et substantielle. Donc quelque chose qui existe de et par lui-même. Cette réalité ou cette affirmation ne résiste pas à une introspection un peu poussée, une analyse un petit peu poussée. Vous pouvez considérer quelque phénomène que ce soit, le regarder et essayer de voir si il existe de façon autonome, c'est-à-dire s'il ne dépend de rien. S'il n'est venu de rien, s'il ne demeure pas par l'influence d'autres éléments, d'autres phénomènes. Et on va très rapidement voir qu'il n'y a pas un phénomène dans le monde, dans tout ce que nous pouvons connaître, qui existe en lui-même. Ça peut vous donner un petit peu une sorte de tournis ou un vide cosmique quand on commence à y penser, parce qu'on a l'impression que le plancher disparaît sous nos pieds, etc. Donc, il faut se rassurer en pensant que quand bien même l'essence de tous les phénomènes est vide, leur manifestation est quand même perceptible. Donc, vous avez un plancher illusoire qui est finalement aussi réel que vous et aussi vide que vous. Donc, pas de panique. L'autre façon de voir les choses, comme disait Trungpa Rinpoche, mauvaise nouvelle, nous tombons. Bonne nouvelle, il n'y a pas de sol. Nos propres manifestations qui n'ont jamais existé donnent l'illusion d'objet. Donc là, c'est. On peut reprendre ou paraphraser le sutra du cœur, la forme est vacuité, le vide est forme. En essence, vacuité, en manifestation, clair, précis, j'aurais presque tendance à dire palpable. Sous l'emprise de la non-connaissance, notre conscience donne l'illusion d'un soi. Alors, non-connaissance, traduction française du mot probablement tibétain, ma jigpa. Ma, c'est privatif, non. Jigpa, c'est vidya en sanskrit. Jigpa veut dire une auto-connaissance, c'est-à-dire une connaissance qui n'est pas sous l'influence du format dualiste. Intellectuellement, c'est difficile à comprendre. Pas parce qu'on est idiot, mais parce que notre langage est dualiste. D'accord? Je connais quelque chose. Il y a je il y a le verbe action connaître et il y a l'objet de ma connaissance. Si on fait abstraction de je et de connais, il y a l'objet, mais l'objet n'existe pas s'il n'y a pas le je, et l'objet n'existe pas et le je n'existe pas s'il n'y a pas la connaissance. Donc on a toujours besoin des trois, apparemment. En tout cas, au moins des deux, je et l'objet, le sujet et l'objet. Et donc, une connaissance non duelle, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience intime, personnelle, et comme toutes les expériences, ineffable, inconcevable, etc. Donc là, on est obligé d'utiliser un langage dualiste pour essayer de donner une image, une représentation d'une expérience qui est libre du schéma dualiste. Donc, ça, c'est Jigpa. L'esprit se connaît en lui-même, par lui-même. Non pas comme un objet qui est connu, comme extérieurement, mais l'esprit se connaît en lui-même, par lui-même. Donc, quand cette expérience n'est pas faite de cette façon, il y a donc conscience dualiste. C'est l'un ou l'autre. Et c'est ce que non-connaissance signifie ici. Ma rigpa. Nous ne sommes pas dans la connaissance non duelle, la conscience ou la connaissance non duelle. D'accord? Et sous l'emprise de cette nescience, de cette ignorance, eh bien, notre conscience donne l'illusion d'un moi. Ce que nous appelons moi est une surimposition conceptuelle qui est en quelque sorte accolée à la qualité consciente de l'esprit. L'esprit, le mot esprit, sem en tibétain ou citta, c'est littéralement ce qui est conscient. Alors, sous l'effet de l'ignorance, l'esprit est conscient dans le mode dualiste. Sous l'effet de l'expérience de la non-dualité, il est conscient de lui-même en lui-même. D'accord? Donc, la base de l'illusion, c'est l'ignorance qui divise chaque instance de conscience en une expérience qui se passe entre un sujet et un objet. Et dans cette division, la qualité consciente de l'esprit se retrouve nommée ou vécue comme un sujet autonome, pérenne, substantiel, qui regarde un objet. Donc la première partie du verre ici, c'est la luminosité et le rayonnement naturel de l'esprit est solidifié en un objet extérieur. La conscience de l'esprit est assimilée à un observateur. C'est ce que l'on appelle la double saisie. Le soi de l'individu, qui n'est autre que la conscience de l'esprit vide, et le soi des phénomènes, qui n'est autre que le rayonnement naturel, la luminosité de l'esprit vide. C'est un petit peu comme une personne qui souffre d'une sorte de maladie mentale et qui se voit dans un miroir, pense voir une autre personne. Il y a du fait de cette distorsion cognitive due à la maladie, cette différenciation et cette double saisie des soi. Le soi de l'individu, ce qui connaît, se connaît comme le sujet. Et ce qui est connu comme l'autre, comme un objet. Il y a une saisie du soi, c'est-à-dire l'objet est perçu comme une entité. Mais en fait, c'est le même esprit qui se regarde. La réflexion dans le miroir. Donc, d'une part, on pourrait dire la créativité naturelle de l'esprit qui est vide en essence, donc n'a jamais vraiment existé de façon autonome et substantielle, donne à l'esprit confus l'illusion d'objet. Sous l'emprise de la vision dualiste, sous l'emprise de la non-connaissance, notre conscience, notre esprit, nous donne l'illusion d'un moi, le soi de l'individu. Et sous le pouvoir de cette saisie duelle, nous, dans l'immensité des possibles, nous errons. Le possible, c'est une autre façon de parler du samsara, du monde conditionné. Sipa en tibétain, ça veut dire tout est possible. Alors, c'est intéressant l'utilisation d'ailleurs de ce mot en tibétain, les possibles. Nagarjuna nous dit, parce que rien n'existe, tout est possible. Parce que rien n'existe, tout est possible. Parce que tous les phénomènes sont dénués d'existence, eh bien, tout peut se manifester. Est-ce que vous suivez un petit peu la logique du truc là? Retournons la phrase. Si tout existe, c'est-à-dire qu'il a tout phénomène a une existence substantielle, autonome, pérenne. Rien ne naît de nouveau, puisque tout est déjà en place. C'est parce que rien n'est en place de façon permanente que tout est possible. Je vous parle. La communication est possible parce que rien n'est figé. Si j'étais figé sur un mot, dans une permanence de ce mot, ou si j'étais figé, encore pire, dans l'entre-deux mots, on ne pourrait pas communiquer. On peut communiquer parce qu'un mot amène l'autre, un mot chasse l'autre, et cela est possible parce que aucun des mots n'existe et est figé dans une posture stable et définitive. La même chose pour les pensées. Si votre esprit était figé sur une pensée, vous ne pourriez pas avoir un flot de pensées. Vous ne pourriez pas continuer d'élaborer. Il faut qu'une pensée s'élève et qu'elle disparaisse pour qu'une autre puisse apparaître. On ne peut pas avoir deux pensées en même temps. C'est une pensée à la fois. Donc, on tourne la phrase à l'envers. Donc, si les choses étaient figées en l'état, rien ne pourrait apparaître. C'est bien parce que rien n'est figé en l'état, parce qu'il y a l'impermanence, le mouvement, le changement, que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible parce que toute manifestation s'élève par le jeu de la production interdépendante. C'est-à-dire que si les causes et les conditions sont réunies, eh bien, tout est possible. D'accord? Donc ça, c'est ce que cette ligne, ces quelques lignes du troisième Karmapa nous dit. Sous le pouvoir de la saisie duelle, dans l'immensité des possibles, nous errons. L'immensité des possibles, c'est rien n'existe, tout est possible. Et toutes les formes de vie, toutes les formes d'aventure de l'esprit qui s'associent à une physicalité, etc., etc., sont possibles. Là où nous vivons, en Virginie, l'été, il fait très chaud et il pleut. Et il y a bon, tout pousse. Ouais, il faut tondre la pelouse pratiquement toutes les semaines parce que sinon on vit dans la jungle. Et toutes sortes d'insectes apparaissent. Des choses qu'on n'avait jamais vues avant. On regarde ça, mais c'est quoi? D'où il vient celui-là? Il est bizarre, quoi. Et si on regarde le monde animal, et en particulier le monde des insectes, etc., il y a une sorte de foisonnement de possibilités. Et on se dit, mais pourquoi bon, il y avait un insecte qui pique, ça suffit. Pourquoi ils en ont d'autres? Hein? Les causes et les conditions font que, effectivement, toutes ces formes évoluent, s'interpénètrent, et puis continuent de se manifester. Et toute cette possibilité, c'est parce que le monde animal, et en particulier les insectes, sont pas figés dans une position. Sinon, on aurait l'insecte. Il n'y aurait pas cette possibilité de manifestation à l'infini. Alors, ce qui veut dire, c'est que l'esprit peut se perdre dans tous les possibles. L'esprit peut s'identifier à toute forme de manifestation. Généralement, on décrit les possibilités d'aventure de l'esprit par ce qu'on appelle les six classes d'existence. Parfois cinq. On met les devas et les asuras dans la même boîte, et donc on parle de cinq. Parfois, on parle des trois mondes, le monde du désir, le monde de la forme, le monde du sans-forme, mais c'est différentes façons de couper la tarte en morceaux, mais c'est la même chose dont on parle. Mais si on regarde bien, ne serait-ce que dans le genre humain, les multiplicités d'aventures dans lesquelles l'esprit peut s'aventurer, hein, se projetant dans un univers, s'associant à une physicalité en construction, on entre dans un monde. On entre dans un monde. L'importance, l'influence de la culture ambiante va modifier l'esprit. Hein? On peut être femme, mourir, dans l'espace de 49 jours plus 9 mois, naître comme homme. Hein? L'expérience de l'esprit n'est pas genrée. L'esprit est non binaire. Il est fluide. Hein? Donc, tout est possible. Parfois, on regarde les traits d'un personnage qui est un boucher ou un truc comme ça, et on peut commencer à voir le groin qui pousse. Et on se dit, tiens, peut-être la prochaine fois, ça va être un cochon. Si à l'intérieur, dans l'esprit, on se conduit, on se comporte comme un cochon, on plante des graines et on fait des sillons dans notre conscience terrain qui vont réémerger dans cette façon. Donc, l'esprit se méprend du fait de l'ignorance et s'aventure dans toutes sortes de possibilités, ce qu'on appelle ici le SIPA, le monde, toutes les possibilités. C'est infini. Donc, dans tout cela, nous errons parce que de proche en proche, on continue à agir, répondre sous l'influence des afflictions mentales, dans le cadre de la saisie duelle et sous l'ombrelle, on pourrait dire, d'une façon générale, de l'ignorance. Donc, l'illusion de la non-connaissance à la racine, puissions-nous trancher. À la racine veut dire, on ne va pas s'attaquer à chaque possibilité de réincarnation ou d'imagination ou de, comment dire, d'identification de l'esprit. On va essayer de couper à la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est l'esprit qui ne se connaît pas. C'est l'ignorance, ma ajikpa. C'est la conscience dualiste. On va s'attacher à libérer la saisie de la conscience dualiste, dépasser la conscience dualiste avec un cheminement, une méthodologie qui nous est offerte par tous les enseignements du Bouddha, de façon à ce que l'errance dans l'infini des possibles soit tranchée à la base, c'est-à-dire qu'on se libère du cycle des existences. Alors, cette ligne vient illustrer parfaitement la nature dite imaginaire. Ce que nous connaissons du monde et que nous pensons être le monde de façon objective n'est que la représentation mentale et l'expression des préférences et des habitudes de la conscience confuse qui pense en termes de moi, en relation ou en confrontation à l'autre. Donc, à la base, il y a une distorsion cognitive qui est la structure dualiste. Et ensuite, on va opérer sur la base de cette conscience dualiste, on va opérer tout un tas de manipulations, d'organisations, d'arrangements. C'est bien, c'est pas bien, c'est pur, c'est impur, j'en veux pas, c'est etc., qui sont en quelque sorte des élaborations fictives sur une base erronée. Élaboration fictive sur une base erronée. Bienvenue dans notre monde. Ce que l'on voit du monde, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Le monde, on le voit comme solide, on le voit comme liquide, on le voit comme spacieux, on le voit comme beau, on le voit comme laid, et on attribue à des caractéristiques qui sont pour nous des caractéristiques absolues, définitives, alors que ce ne sont que des humeurs, des représentations qui changent. L'alcool fort est peut-être votre meilleur ami le samedi soir et votre pire ennemi le dimanche matin quand vous vous réveillez. Hein? Donc en fait, l'alcool, lui, n'a pas changé, mais par contre, votre relation à l'alcool a sérieusement changé entre la soirée et la matinée. La notion de plaisant et de déplaisant est extrêmement, d'une part, subjective et très changeante, très volatile. La notion d'ami et d'ennemi, très volatile. Le laid et le beau, très volatile. Mais dans notre confusion, on attribue presque, on pourrait dire, une qualité ontologique, essentielle, inhérente, intrinsèque. Ça fait beaucoup de mots, ça. À l'objet. On colle des étiquettes et ensuite on gère la réalité au travers des étiquettes. Vous savez, parfois on dit un réfrigérateur, mais en fait souvent, enfin maintenant je sais pas parce que je suis vieux, mais nous on disait un frigo. Hein, tu vas dans le frigo. Pourquoi frigo? C'était le raccourci de la marque Frigidaire. Hein, on a un téléphone, souvent on dit un iPhone. Hein? Normalement, on appelle ça un téléphone portable, où on peut avoir un lecteur de CD de moins en moins, mais on appelle ça un Walkman, alors que c'est une marque déposée par Sony. Et donc tout ça sont des étiquettes qu'on colle sur des choses, et le logo, le nom, nous permet de contrôler, de connaître et de saisir l'objet. C'est son, comment on dit en français, handle, c'est son hashtag. C'est le nom qui est censé le représenter. Sauf que avec le temps, le nom devient l'objet. Et donc, en fait, on manipule des symboles et des objets, des icônes presque, on pourrait dire, en pensant qu'ils sont la réalité qu'ils sont censés représenter. On perd la distance. On ne reconnaît plus que ce que l'on connaît du monde, c'est la représentation mentale que l'on en a. Et la représentation mentale que l'on en a n'est que le résultat des influences en sous-main, des tendances fondamentales, des habitudes, des expériences précédentes qui sont engrangées dans notre conscience terrain. Donc, comme l'écrivait Anaïs Nin, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Donc, ça, c'est l'idée de la nature imaginaire. Et pour revenir au thème général de la retraite, comment se fait-il que nous soyons tous dotés de la nature d'éveil et que nous ne voyons pas? Parce que nous sommes tellement occupés à lire les étiquettes que l'on ne voit pas le substrat, le terrain fondamental. On est sur un glacis de surface et on est totalement absorbé par ça. On ne va pas au-delà des apparences. Et puisque l'esprit, la capacité consciente de l'esprit est totalement absorbée, dans la gestion de l'apparence, le maintien de l'apparence parce qu'il y a une sorte de panique existentielle parce que le soi se sait fragile, inconsciemment, et que ce soi doit constamment se ressusciter. Il doit constamment se solidifier, il doit constamment garantir son existence. Et comment est-ce qu'il fait? En connaissant l'autre. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je sens donc je suis. Le soi de l'individu est un petit peu comme une chauve-souris dans une grotte, dans le noir absolu, et qui crie pour que l'écho de ses cris touchant le monde lui donne sa position. C'est ce que moi j'appelle le GPS, le positionnement global du soi. Donc, c'est une fonction importante, je dirais presque une perte essentielle d'énergie du soi, que d'assurer sa pérennité et sa stabilité. La deuxième fonction du soi, c'est de projeter des images et de se les renvoyer. Ceci est beau, ceci est laid. Oh mon Dieu que c'est beau, oh mon Dieu que c'est laid. Et donc tout ça, c'est ce que l'on appelle donc les perceptions illusoires qui naissent d'une conscience confuse. Bienvenue dans notre monde. C'est à ce niveau-là que nous opérons en permanence. Et puisqu'il y a l'ouverture d'un fossé entre le soi et l'autre, que les choses sont vécues et assumées comme réelles, substantielles, permanentes, etc., eh bien, les afflictions mentales s'élèvent, les engagements émotionnels vers cet objet, saisie, rejet, colère, ignorance, indifférence, etc., les actions et les paroles sont poussées. Et les conséquences se font sentir. Et alors, l'ironie de l'ensemble, c'est que tout cela, c'est du vent. C'est de la tempête. C'est la production illusoire d'une conscience qui s'ignore. Une souffrance auto-infligée. Du fait de l'auto-ignorance. Donc, lorsqu'on commence à regarder les choses de cette façon, on voit l'étendue des dégâts. Notre propre souffrance, elle est réelle, mais elle n'est pas vraie. Elle est réelle dans le sens que nous la ressentons comme brûlante, mais elle n'est pas vraie, elle est illusoire. Il y a une distorsion cognitive sur la base de quoi pour paraphraser le grand philosophe Coluche, on prend pour les vessies pour des lanternes et on se brûle. Tout ça, c'est de la, comment dire, de la pièce montée. C'est du vent, mais ça nous apparaît comme une réalité dans la distorsion cognitive de l'ignorance. Donc, lorsque l'on voit ça, on a finalement, très rapidement, qu'une envie en tête, c'est comment est-ce que je débranche la prise de cette ignorance pour que tout cet édifice artificiel s'effondre. Alors, on peut travailler sur chaque problème ou bien on peut travailler à la racine. C'est ce que Karmapa dit, que l'ignorance soit coupée à la racine. Shantideva disait, lui, si la terre est couverte de ronces, vous avez deux options. Vous recouvrez la terre de cuir ou vous mettez des chaussures. Donc, mettre des chaussures, c'est couper l'ignorance à la racine. Parce qu'on peut passer un temps infini à essayer d'éteindre le feu de toutes les illusions, ou on peut les reconnaître comme illusions et tous les feux sont éteints. Lorsque l'on se rend compte de cela, on voit que la souffrance d'autrui est faite des mêmes conditions. Et on voit que les êtres ne souffrent pas premièrement et essentiellement de la douleur en soi, mais de l'ignorance qui crée le cadre dans lequel la douleur peut être expérimentée comme douloureuse. Il y a deux formes de compassion. Il y a une compassion qui prend comme objet la souffrance des êtres. C'est la compassion ordinaire que tout le monde peut avoir. Le pauvre, il est malade, il souffre, il s'est cassé une jambe, etc., etc. Et puis il y a la compassion des bodhisattvas, qui elle regarde ça d'un point de vue beaucoup plus essentiel et beaucoup plus profond, on pourrait dire du point de vue de son expérience, sa réalisation méditative, et qui voit que la souffrance des êtres n'existe comme souffrance que de façon relative dans ce monde imaginaire, et que ce monde imaginaire et cette souffrance imaginaire, mais véritablement douloureuse, n'est possible que dans le cadre de la saisie dualiste qui est l'expression d'une conscience qui s'ignore. Et donc on a une compassion beaucoup plus essentielle, parce que voir la souffrance d'autrui génère de la compassion, mais voir en plus que cette souffrance naît de leur propre ignorance et qu'en fait il n'y a pas de souffrance, réellement, véritablement, mais qu'il y a effectivement l'apparence d'une souffrance, que bien qu'elle soit apparence, elle est extrêmement douloureuse. Donc là, notre compassion est amplifiée. Et quelque part, elle devient beaucoup plus juste parce que elle voit quelle est l'origine et là où on doit trancher, au niveau de l'ignorance. Mais bien sûr, qu'on va aussi, le Bodhisattva aussi agir au niveau de la manifestation illusoire, utilisant des artifices qui vont être reçus par les êtres souffrants dans et par leur conditionnement et leur illusion comme étant des remèdes, des moyens salvateurs et libérateurs. Donc, je dis d'abord, on envoie les pompiers, ensuite les professeurs et l'éducation. D'abord, on prend soin de la souffrance et ensuite, on éduque et on conduit les êtres vers la réalisation de la nature de l'esprit. Mais avant tout, on va pacifier le feu de la douleur. Hein? On ne peut pas simplement dire, je suis vraiment désolé pour vous, mais vraiment vous êtes trop. Ça commence avec un C et ça finit par un N. Et vraiment, mais prenez-vous en charge. Tout ça, c'est votre création. Non, ça, c'est pas la compassion d'un bodhisattva. C'est l'arrogance de quelqu'un qui pense avoir compris. Le bodhisattva parle avec son cœur et son cœur est entouré et soutenu par son intelligence. Donc, c'est un emprisonnement dont il est très difficile de sortir, c'est quasiment inextricable. Parce que ce n'est pas que la souffrance, finalement, qui mène ce monde illusoire, ce monde imaginaire. Hein? Bien sûr, on voit que c'est l'ignorance, mais l'ignorance naît de quoi? L'ignorance naît des actions négatives, qui crée une dynamique négative qui vient obscurcir la clarté naturelle de l'esprit et qui vient donc voiler le voile des afflictions, le voile des actions négatives, voiler la liberté naturelle de l'esprit et interdire à l'esprit de se reconnaître. Donc, ce qui va maintenir ou qui va rendre ce monde imaginaire durable, c'est avant tout l'espoir, le désir. Et en fait, on peut, si on veut, parler de plusieurs formes de désir. Mais en fait, il n'y a qu'un seul désir. Le désir d'éviter la souffrance, le désir d'avoir un bonheur stable et constant, et le désir de ne pas être dérangé alors qu'on expérimente ce bonheur stable et constant. Donc, la colère, le rejet, c'est le désir d'être libre de la souffrance. Et tout ce qui va venir, en quelque sorte, gêner cet état béat et extatique, va provoquer un rejet et une violence. Le désir de l'attachement, c'est le désir du maintien, de la pérennité, de l'expérience heureuse. Et ensuite, l'ignorance ou la confusion mentale, c'est le désir de ne pas être réveillé. Un petit peu comme quelqu'un qui a bien mangé et qui fait une petite sieste tranquille, qui n'a pas envie, qui est dans sa petite pelote de mohair et qui n'a pas envie d'être dérangé. Donc, on veut rester dans, vous savez, comme les gamins quand on les... Il faut se réveiller. Oh, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Laissez-moi tranquille. Et tout ça, c'est en fait, ces trois aspects sont un seul désir. Donc, nous sommes vraiment prisonniers du monde du désir. La colère, c'est poussé par le désir de ne pas perdre la tranquillité. Le désir, c'est poussé par le désir de garder la tranquillité ou d'acquérir la tranquillité. Et l'opacité mentale ou l'indifférence, c'est le désir de ne pas être dérangé, de ne pas être chahuté. Donc, ce monde illusoire, il tient sur la base de l'ignorance, par le désir. Et le désir de quoi? Le désir de cet objet illusoire que l'on projette, sur lequel on projette nos préférences absolues, alors que ces préférences sont volatiles et changent, et que l'objet sur lequel on projette nos préférences est volatile et change. Donc on a toutes les recettes là pour la faillite. On ne sait pas ce que l'on veut de façon définitive, ça change tout le temps. Et quand on voit un objet sur lequel on peut projeter ce désir, cet objet, avant même qu'on ait pu vraiment le saisir complètement, il s'est déjà transformé, il a déjà disparu. Donc, le monde imaginaire nous maintient dans la prisonnier, où nous nous collons à ce monde imaginaire par désir et par envie de le garder et peur de le perdre. Et donc, c'est la colle. Le désir, c'est la colle. C'est ce qui cimente tout ça. Parce que tout ça, c'est extrêmement, comment dire, fragmenté. C'est absolument, c'est hétérogène. Il y a aucune cohésion dans tout ça. Si ce n'est le désir. C'est ce qui tient. Et on va passer au travers de l'insoutenable parce qu'on a un désir. Pour un mieux-être, pour un lendemain meilleur, etc. Ne sachant pas que tout ça, ce ne sont finalement que des miroirs aux alouettes. On est hypnotisé par notre propre création. C'est comme l'hypnotiseur qui s'entraîne devant un miroir. Maintenant, vous écoutez le son de ma voix. Quand je vais dire 3, 1, 2, 3. On s'auto-hypnose. Voilà. Ça, c'est le monde imaginaire. Alors, en termes de méditation, comment on se sort de ce truc? Comment on se sort de ce piège qui est gluant du fait du désir, qui est douloureux du fait d'un esprit qui veut stabiliser des choses qui sont en constant mouvement? Donc, il y a une déception permanente. Comment est-ce que l'on sort? On a vu ça dans les premières sessions. Premièrement, renonciation. Prise de conscience que ce monde imaginaire, il n'est que souffrance. Parce que si l'on est dans ce monde imaginaire et qu'on se dit, oui, bien sûr, c'est le monde de souffrance, mais quand même, elle est pas mal, cette fille. Il y a l'histoire de, dans les sutras, pour ça que je cite cette image. C'est un des cousins du Bouddha, je crois, parce que toute sa famille pratiquement l'a rejoint à un moment donné. Et il était très attaché à sa femme, et sa femme est morte. Et donc, il a renoncé au monde parce que, voilà, il ne trouvait plus de sens dans ce monde. Et donc, il a rejoint le Bouddha. Alors, il a médité, il a médité, mais avec un désir très fort. Un désir très fort de pratiquer une vie vertueuse pour pouvoir renaître dans un monde supérieur chez les Devas. Et comme ça, quelque part, il retrouverait la beauté, une beauté semblable à la femme qu'il a perdue. Bon, motivation douteuse. Le Bouddha lui dit, cousin, viens là, accroche-toi à ma robe. Et il l'emmène chez les Devas. Et là, il voit un palais merveilleux avec des servantes aguichantes préparant une couche royale, des repas, etc., etc. Et il demande, mais c'est à qui appartient la maison, etc. Il dit, mais c'est au moine un tel, c'est-à-dire lui, qui va, s'il médite toute sa vie et garde une conduite pure, etc., va renaître chez nous. Et alors là, il est convaincu, tu vois, il redescend et continue à méditer, continue à méditer. Et tout le monde le regarde de façon un peu suspicieuse parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Son exercice méditatif, c'est parce que, hop, il sait qu'il a une place au paradis avec plein de chouettes pépés dans une belle maison avec un beau lit. Et la table est mise. Donc, alors le Bouddha, au bout d'un moment, il dit, cousin, viens voir, attrape ma robe. Et là, il l'emmène dans les enfers. Il descend au fond des enfers. Et là, il y a un énorme chaudron. Ils sont en train de préparer le chaudron, amener du feu, amener du bois pour faire bouillir l'huile, etc., etc. Et là, il dit, mais c'est terrible, là. C'est pour qui? Alors, ils disent pas, ah, c'est pour le moine un tel et un tel, donc son nom, parce qu'il pratique avec une motivation dévoyée. Il va accumuler quelques mérites qu'il va consumer très rapidement dans une existence plus ou moins longue dans les enfers. Et après, toute sa négativité sous-jacente va revenir en surface et prendre le premier plan, et nous, on l'attend. Et là, il remonte, et là, il panique, et là, il commence à méditer sur le coup pour pas aller dans les enfers. Et après, l'histoire dit que il jetait des pierres aux guenons en rut en leur disant, vous êtes aussi belle et aussi moche que toutes les déesses du paradis. Voilà, bon, je crois qu'il n'avait pas en fait tout compris, mais l'histoire était peut-être plus pour éduquer les autres que lui-même. Ce qui nous tient liés dans ce monde imaginaire, c'est notre propre désir ou l'imaginaire de notre désir, le désir imaginé. Parce que ce désir, le fantasme ne connaît aucune réalisation. On ne peut jamais réaliser un fantasme. Parce que la réalisation d'un fantasme est tellement en dessous du fantasme, parce que par définition, le fantasme est toujours supérieur, qu'en fait, on ne peut jamais l'obtenir. Et même si on arrive à quelque chose qui ressemble un peu et qu'on s'accorde à dire, ouais, bah, c'est mieux que rien, etc., même ça va partir. Ça tient pas. Tout est en changement constant. Donc, on est prisonnier finalement de notre désir et on souffre les conséquences de l'ignorance et de notre désir. Alors, comment est-ce que l'on sort de ça? En voyant vraiment la réalité en face et en ne se voilant plus la face. Renonciation, renoncement, qui est de dire tout ce qui apparaît merveilleux, etc., en fait, est simplement une projection de mon esprit confus. Et parce qu'il y a une non-reconnaissance de l'esprit, de toute façon, ça va conduire à une forme ou une autre de souffrance. Donc, non pas comme le cousin du Bouddha, on va se mettre en chemin sur la voie pour avoir les plaisirs des mondes divins, des devas, non plus pas pour éviter les souffrances des enfers, etc., mais pour couper à la racine, parce que aussi bien les dieux que les enfers n'existent que dans l'imaginaire. Ils n'ont pas de réalité en soi. Machiklabjon disait que les 8 classes de dieux et de démons n'existent pas en dehors de l'esprit qui les conçoit. Donc, trancher à la racine. Et pour trancher à la racine, bien, après la prise de conscience de la nature défectueuse de l'existence conditionnée, on va s'engager sur la voie vers l'éveil. S'appuyant sur le Dharma, avec les bons conseils de la Sangha, on va prendre refuge. Dans la perspective du Mahayana, on va développer l'esprit d'éveil. on va commencer à mettre en pratique deux choses. D'une part, l'exploration, la pacification par le calme mental de l'esprit, la reconnaissance de l'esprit et la libération de la structure dualiste. Et l'esprit va se poser enfin en son terrain fondamental, peaufiner les excès encore très subtils, mais encore présents dans l'expérience du Mahamudra, jusqu'à réaliser la nature de l'esprit. Et donc ça, c'est le bienfait personnel, qui est celui de la libération. Et simultanément, par l'exercice des qualités transcendantes, de générosité, d'éthique, etc., on va servir l'autre, alléger leur souffrance, les aider à se mettre en chemin, les aider à découvrir la nature de l'esprit et mener à son terme ces deux voies conjointes vont amener la libération ou le bienfait personnel et le bienfait ou la libération d'autrui. Et en apportant par le développement personnel la capacité à aider les autres et le savoir-faire dans l'aide altruiste par l'exercice des six paramitas tout au long du chemin de Bodhisattva. Voilà comment on se sort de du monde imaginaire. OK? Bien. Avez-vous des questions? Ça vaut pour vous aussi, amis IES du cyberespace. Je ne sais même pas boire. Vous dire le travail qui reste à faire. C'était un peu du lourd là, en information, non? Pardon.
Au risque de nouveau de prendre trop de place là dans ce débat, mais j'ai quand même une question moi, qui
Bien,
m'a
vas-y, Anne, ne t'inquiète
voilà.
pas.
Je fais court, hein. Moi je vais juste revenir au début là. Tu as exposé une distinction entre la vision du Yogacara. Et celle de Nagarjuna, d'une certaine façon, si je relis mes notes, donc il y a cette union dans le Yogacara, union permanente à l'état naturel, comme s'il y avait deux dimensions qui s'unissent, Samsara et Nirvana, si je ne me trompe pas.
Non, l'union ici, ça veut dire l'esprit qui enfin se reconnaît en lui-même. Et ce faisant, l'esprit se reconnaissant en lui-même, il voit aussi l'union indissociable en essence du samsara et du nirvana, puisque tous deux sont des expériences ou des manifestations de l'esprit qui est vide. Donc ce qui les relie, c'est la vacuité. Et s'ils diffèrent en termes de manifestation. Bien entendu, la saveur nirvana et la saveur samsara ne sont pas les mêmes, mais tous les deux sont sur une base de glace à la vanille.
Et alors, que dire du tétralème d'Nagarjuna qui lui intervient en disant c'est ceci, c'est pas ceci, c'est cela, ce n'est pas cela. Donc c'est une espèce de double, ces oppositions qui en même temps ouvrent des espaces vers justement l'ineffable, l'indicible, puisqu'on ne peut pas le nommer. Donc pour moi, la perception que j'ai du tétralème de Nagarjuna, c'est une vision encore plus complexe, mais plus en rapport avec la réalité ultime.
Alors, oui. Alors le tétralème, hein, tétra du grec 4, les quatre réfutation de Nagarjuna. Nagarjuna, en fait, finalement, c'est un grand correcteur qui, en fait, démonte toutes les assertions possibles que l'on peut faire quant à la nature de la réalité. Le grand reproche qui est fait par le Madhyamaka au Yogacara, c'est qu'il semble que pour eux, la conscience est perçue un peu comme étant substantielle et ayant une sorte de réalité. Ce qui les rapprocherait dangereusement de la boutique en face, les ennemis, c'est-à-dire les védiques, avec leur Atman, hein, donc, qui est permanent, etc. etc. Donc, ceci étant dit, Nagarjuna, deuxième siècle, d'accord, et Yogacara, Asanga, Vasubandhu, huitième siècle. Donc, on ne peut pas dire que Nagarjuna a créé son tétralème pour réfuter les positions qui seront celles d'Asanga et de Vasubandhu six siècles plus tard. D'accord ? Ce que l'on peut dire par contre, c'est que Vasubandhu et Asanga ne n'ignoraient pas les positions de Nagarjuna. Nagarjuna, en son temps lui-même, a été très critiqué. Il a été accusé d'être nihiliste, puisqu'il est non substantialiste et non affirmatif, c'est sa définition. C'est-à-dire que l'esprit et les phénomènes sont dépourvus de toute substance et de toute réalité substantielle, et qu'il n'affirme aucune position. C'est pour ça, par exemple, ici à la page 7 dans la prière du Mahamudra, affirmer c'est alors que rien ne peut le définir. Affirmer ce n'est pas, alors que rien ne peut l'entraver. Au-delà du mental, la nature ultime des phénomènes n'est pas composée. De la complète vérité absolue, puissions-nous avoir la certitude. Donc Nagarjuna montre que lorsque l'on affirme les phénomènes existent, il démonte cette affirmation, il réfute. Lorsque l'on affirme les phénomènes n'existent pas, il réfute cette vision, on va dire, nihiliste. Et puis après, les combinaisons de ces deux, to be or not to be, neither nor. Être, ne pas être, ni l'un ni l'autre. Hein, pour faire simple et vraiment à la louche, hein, parce que ce n'est pas le but de la soirée. Mais je crois que Nagarjuna, en son temps, a été critiqué parce qu'on l'accusait du fait qu'il ne positionnait pas ou ne faisait aucune affirmation quant à la nature des phénomènes, d'être un nihiliste. Donc Nagarjuna, pour essayer de sortir de ce problème, qui était un problème en fait, son esprit était trop subtil pour les gens de son temps. Et donc, eux, ils pensaient avec des grosses galoches, alors que lui, il faisait vraiment dans la précision. Et le fait que on puisse réfuter l'être et le non-être sans pour autant affirmer qu'aucun des deux n'existe, c'est-à-dire que sa réfutation n'est pas une négation, trop subtile pour être comprise par les gens de son temps. Et donc, on l'a accusé de négationniste. Et donc, il a été obligé de venir avec une roue de secours, on va dire plus simple, et c'est lui qui a mis en avant et qui a commencé à parler de vérité relative et vérité absolue. Voilà, et donc il a été amené à faire cette présentation vérité relative et vérité absolue parce que en fait son tétralème, sa proposition qui tente à démontrer l'invalidité de toute position philosophique à propos de la nature des phénomènes ou de la nature de l'esprit comme étant invalide était trop subtile pour être vraiment. Et elle l'est toujours, d'ailleurs, de nos jours. Hein. Très extrêmement subtil. C'est vraiment un très haut niveau de philosophie bouddhiste. Ceci étant dit, la praticalité du Yogacara, il me semble à mes yeux, est supérieure. En termes de pratique, parce que appliquer le tétralème de Nagarjuna à votre méditation du calme mental, Un coup je suis, un coup je suis pas. Un coup je le vois, un coup je le vois pas. C'est pas très pratique. Je pense que ça a un but et une fonction très simple qui est de démonter dans les débats philosophiques toute forme de fixation mentale, de réification. La pratique méditative que l'on peut faire donc dans le chemin qui conduit au Mahamudra, au travers de calme mental et vipassana, profite grandement de la vue du Yogacara. Il y a une immense influence du Yogacara sur le Mahamudra et sur le Dzogchen aussi, tout comme sur le Chan et donc par extension au Japon, le Zen. Extrême influence du Yogacara sur le Chan, le Dhyana, le bouddhisme de Chine, et ensuite le Zen qui, bien sûr, vient de ce bouddhisme chinois. Donc, par exemple, donc l'exposé des errements de l'esprit au travers des trois natures, ou plutôt l'exposé des errements de l'esprit au travers des deux premières natures, le dépendant et l'imputation, nous conduit progressivement, va nourrir et guider nos pas dans le chemin méditatif. On va commencer à comprendre en quelle manière notre esprit se trompe. C'est-à-dire vraiment, littéralement, il se trompe. Hein? Et donc, nous permettre de faire machine arrière et d'utiliser cette vue comme base pour l'exercice de notre méditation. Dans l'exercice, par exemple, du calme mental, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la perspective du Mahamudra, hein, le calme mental dans la perspective du Mahamudra, on regarde tous les phénomènes comme des illusions. Assis, posé, le regard clair, on voit s'élever tous les phénomènes, extérieurs, intérieurs, et on les voit comme le jeu illusoire de l'esprit. C'est l'instruction qui est donnée dans l'approche du calme mental dans la perspective du Mahamudra. Ça s'appuie totalement sur cette nature en termes de vue, totalement sur cette vue de la nature imaginaire ou la nature imputée. Et donc, on peut avoir donc un outil de réflexion intellectuelle. On va réfléchir sur le système de confusion qui se propage, se maintient, se développe dans l'esprit qui s'ignore. Et on va pouvoir commencer à le ressentir dans notre expérience méditative. Il sera beaucoup plus difficile, à mon sens, de faire ça avec le tétralène de Nagarjuna. La relation avec le calme mental, par exemple, est beaucoup plus distante, c'est beaucoup plus lointain. On peut le faire, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus aisé avec le Yogacara. Et c'est pour ça que certains maîtres sont, en termes de vue, ils adoptent la vue du Madhyamaka, Nagarjuna. En termes de méditation, ils s'appuient sur la vue du Yogacara. Parce qu'il faut bien comprendre que ces quatre vues dans le bouddhisme sont des progressions. C'est-à-dire que la deuxième accepte la première, mais va un peu plus loin. La troisième accepte la première et la deuxième, mais va un peu plus loin. Et la quatrième accepte la première, la deuxième et la troisième, mais va un peu plus loin en corrigeant les excès ou les carences. Hein? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas les quatre, aucune des quatre n'est fausse. Mais elles sont toutes incomplètes. Et les tenants du Madhyamika tendent à dire que cette vue est supérieure. C'est un petit peu comme les musulmans qui disent Moïse est la rose, Jésus est la fleur, Mohammed est le parfum. Hein? C'est-à-dire que le sentiment comme ça qu'il y a une progression, et les derniers arrivés ils disent ben, voilà, nous on est quand même la. Le summum, on est le pinacle. Hein? Bon, sauf que là, historiquement, Yogacara sont arrivés après Madhyamaka. Voilà. Donc, ça répond un peu à ta question. Le micro, j'entends
oui, pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Vraiment, merci beaucoup.
Très bien, très bien. Le but vraiment de cette semaine, étant ici au Jardin de Grande Compassion, qui est un lieu destiné au Mahamudra et à la méditation, et pas trop à la dissertation philosophique infinie et à couper les cheveux en quatre. Je voulais simplement, mon propos, c'est de dire qu'on peut bénéficier grandement d'une compréhension, on va dire, assez juste et complète de l'approche des trois natures du Yogacara, et que ça va être une base, ça va nous donner une base sérieuse pour notre pratique du calme mental et de Vipassana, bien sûr, toujours dans la perspective du Mahamudra. Et c'est ce que j'essaye de faire. Là, donc, aujourd'hui, ce soir, on a traité de cette première nature qui est la nature imaginaire ou l'imputation. Et puis on verra dans les prochaines éditions les autres natures. D'accord? D'autres questions? Si je peux me permettre, peut-être, si vous mettez à la place sur votre coussin, dans votre méditation, est-ce que vous voyez en quoi ce que on vient de voir ce soir peut vous aider à mieux comprendre ces instructions, par exemple données dans le cadre de la pratique du calme mental, regarder tous les phénomènes comme le jeu de l'esprit? Est-ce que ça facilite cette compréhension? Alors maintenant, bien sûr, vous pouvez simplement recevoir cette instruction et la mettre en place. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais si l'on a une base en dessous de compréhension, ça peut faciliter la mise en application. C'est le but de mon intervention. C'est ça, de dire qu'il y a un substrat philosophique qui permet de raisonnablement faire confiance aux instructions. Sinon, on peut le dire, la maladie de la maladie. La maladie, donc je le fais. Mais là, on se dit, non seulement c'est une instruction du lama, mais en plus, logiquement, rationnellement, je peux étayer cette instruction, elle prend vraiment sens. C'est vraiment le but de mon intervention dans cette semaine. D'accord? Bien. Ben écoutez, je crois qu'on va aller se faire dormir les yeux. Alors, pour terminer, partageons tout cela, offrons-le à l'ensemble des êtres. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception en cet état, puissions-nous les établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus. Des fautes troublantes de la naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ceux qui errent, puissions-nous délivrer. Merci beaucoup.
Merci. Merci
les résidents, rendez-vous demain à 7h.
Merci.
Au revoir. Merci. Salut, merci, prenez bien soin de vous.
Merci.